Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons parler de la performance, comment les joueurs se préparent pour atteindre leurs objectifs, quelles sont les recettes pour performer. On en discute tout de suite. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud.
Salut JP.
Alors Arnaud, comment va votre golf? Déjà, est-ce que vous, la performance est là en ce moment?
Ouais,
ça se passe plutôt bien, non?
Ouais, ça se passe plutôt bien. Bon, on s'en moque, mais...
Votre sourire à chaque fois que vous rentrez dans la rédaction?
Bah, en tout cas, j'ai baissé mon index depuis le début de l'année. Voilà.
Vous êtes désormais 5,8.
Oui, ça, on s'en fout, JP.
Alors justement, on va en parler. Hein. La semaine dernière, on a parlé justement de la victoire. Et vous pouvez d'ailleurs écouter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Cette semaine, nous allons aborder le thème de la performance. Alors Arnaud, comment les joueurs professionnels et même les bons joueurs amateurs font pour se préparer au mieux et justement performer? C'est ça la clé du succès, c'est scorer quand ça compte et forcément ça demande une préparation.
Et c'est surtout cette fameuse carte dans la poche qui est valable du débutant jusqu'au quasiment au numéro 1 mondial. On le sait que voilà, une fois que ça compte, ce sport devient diabolique. Il y a eu plein d'exemples dans l'histoire du golf où des joueurs jouaient très bien à l'entraînement et une fois qu'ils arrivaient en compétition, il n'y avait plus rien. C'est un des mystères du golf, c'est aussi ce qui nous plaît, c'est cette tension-là de la fameuse carte dans la poche.
Alors Arnaud, justement, c'est l'entraînement, le practice, le putting green, les répétitions, tout ça que nous, modestes amateurs, on passe, c'est vrai, pas beaucoup de temps sur ce genre de secteur du jeu. On a envie de jouer, on a envie d'aller sur le parcours.
Oui, et en même temps, Ronan Lafay, qui est notre chroniqueur mental dans le Journal du Golf, dit aussi que l'entraînement ne fait pas tout, il faut aussi bien s'entraîner, parce que c'est vrai qu'au golf, on joue 4 heures, enfin pendant 4 heures, mais on joue quoi, 5 minutes, peut-être 10 minutes, donc 90% du temps, on réfléchit, on marche, et il faut aussi penser à ça, l'entraînement, ne pas tout le temps taper des balles, voilà, il y a le putting, le petit jeu, enfin voilà. C'est encore une fois, c'est pour ça qu'on adore ce jeu, c'est que c'est tellement complexe, c'est tellement dur, mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Et c'est surtout, il y a aussi des contre-exemples, comme un Victor Dubuisson qui, on sait, passe beaucoup de temps sur le parcours, aime s'entraîner sur le parcours.
Mais lui, il ne tape pas des balles, il est dans la situation du jeu, et c'est comme ça qu'il performe. Il y a notamment ce fameux exercice dont Benoît Ducoulombier nous parlait, où il joue deux balles, et à chaque fois, il prend la plus mauvaise des deux. Et ça, c'est très très dur mentalement, et vous êtes obligé de sortir le meilleur de vous-même. Il a été 15e mondial, Victor, c'est pas arrivé par hasard, c'est vraiment un super golfeur. Et encore une fois, il a très très bien réfléchi à ce qui était le meilleur pour lui.
Et surtout, quand on va des fois en Angleterre, on voit sur les anciens parcours, il n'y a pas du tout de practice. Les joueurs anglais allaient sur le parcours avec leurs armes. Voilà, c'est aussi ça la clé aussi, c'est de jouer avec...
On joue au golf, en France, on a des beaux swings. Enfin, on avait des beaux swings.
Surtout le vôtre, Arnaud.
Non, pas le mien. Mais heureusement, on a compris. Et maintenant, voilà, le golf, ce n'est pas avoir un beau swing. Le golf, c'est faire le moins de coups possible et utiliser tout ce qu'on a avec soi ce jour-là.
Allez, Arnaud, pour continuer le débat, je vous propose tout de suite de prendre la direction du Tour européen pour rejoindre Robin Roussel, qui dispute cette semaine le Tenerife Open. Bonjour, Robin.
Salut.
Alors justement, Robin, nous, le thème cette semaine de notre podcast, c'est la performance. Alors justement, quand on évoque ce terme de performance, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous parle de... Comment ça vous parle?
Ça dépend. Il y a pas mal de trucs qui me viennent à l'esprit. Déjà, il y a deux trucs moi qui me viennent tout de suite. C'est est-ce que c'est la performance sur le parcours ou est-ce que ce sera plutôt la performance à l'entraînement? Après. Pour moi, ce que ça m'évoque tout de suite quand tu me dis performance, c'est que ça va plus être dans des exercices à l'entraînement.
Alors Robin, on vous entend un peu moins bien. Peut-être remettre le combiné proche de votre bouche.
Maintenant, c'est mieux, non?
Maintenant, c'est un peu mieux.
Ok, bah, je ne sais pas si je vais pouvoir faire mieux, peut-être comme...
Non, là c'est très bien, là.
Hop, là, c'est encore mieux ou...
Là, c'est nickel. On a l'impression d'être avec vous.
Okay,
vous êtes parfait. Donc reprenons le fil. du coup, la performance, ça vous évoque, vous l'avez dit, performance à l'entraînement ou sur le parcours?
Ouais, alors moi, ça m'évoque tout de suite la performance à l'entraînement parce que c'est comme ça que j'adore m'entraîner. Donc, je m'entraîne, je fais d'abord un petit peu voilà, mes exercices techniques, mes gammes, ce que je travaille un petit peu tous les jours, et je termine toujours tous mes entraînements, que ce soit chipping, putting ou même sur le practice, par voilà, un petit jeu de beaucoup plus axé sur la performance. Donc que ce soit voilà, je me fais un fairway entre deux cibles bien distinctes sur practice, et tant que j'en ai pas mis 5 de suite dans le fairway, je bouge pas de là, où je prends n'importe quelle situation sur le chipping green et je me dis tant que j'ai pas rentré deux chips d'affilée, je bouge pas de là. Et, enfin voilà, je me fais des petits exos de performance comme ça.
Et justement, vous avez évoqué le mot jeu. C'est la performance en jouant, en s'amusant, en se mettant des défis.
Ouais, c'est ça. Bon, après, au début, ça peut être un jeu parce qu'on, ouais, on se dit ça peut être un bon challenge. Après, par exemple, pour avoir vécu pas mal de fois le petit challenge, tant que j'ai pas rentré ce chip-là deux fois de suite, je bouge pas de là. Ça peut être un bon challenge mental aussi parce que quand on y passe 2, 3, 4 heures, il y a un moment où c'est plus du tout un jeu, ça devient plus
une prise de tête.
Ça devient plus un calvaire, ouais. Donc, mais ça fait partie, ça fait partie de la performance, je trouve. Quand on est sur le parcours, parfois, on doit faire avec ce qu'on a. On swing pas comme on aimerait, mais on est en plein milieu du tournoi, donc on peut pas s'échapper et faut trouver des solutions. Donc, c'est ce que j'adore dans l'entraînement, c'est cette performance. Moi, c'est ma préférée.
Et justement, ces jeux et ces défis. Parfois, il y a des situations sur le parcours où vous vous en souvenez, vous dites, bon, voilà, là, ça, je l'ai travaillé, c'est une situation que j'ai connue à l'entraînement.
Ouais, les situations mentales, on les retrouve souvent. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, enfin, ce que j'adore retrouver sur la performance au chipping, notamment, c'est que plein de fois, je me suis retrouvé sur le parcours avec des chips. Que j'avais fait à l'entraînement des centaines de fois parce que du coup tant que j'en avais pas rentré deux de suite, j'étais obligé, je me forçais à les refaire, donc parfois on se retrouve vraiment, si on fait vraiment souvent l'exo, on se retrouve vraiment avec des chips très très similaires. Je prends pas des chips injouables, hein, je prends des chips bord de green où j'ai un petit chip roulé à 10 mètres du drapeau, mais des chips comme ça on en a 3-4 dans la partie. Et voilà, et le fait de se dire que on a été capable à un moment d'en rentrer deux de suite, notamment mentalement, on est dans des meilleures dispositions pour le chipper, et puis au bout d'un moment, à force d'en chipper, on devient bon, quoi. Quand elle rentre pas, la balle, elle se met à 1 mètre, 1 mètre 50, et puis après, elle se met à 80 cm, puis après, plusieurs fois, on en rentre une sur les deux, et puis donc, on devient, je trouve que ça booste notamment l'endurance mentale, entre guillemets, et ça booste la confiance parce qu'à force d'en faire, on devient forcément bon.
On se souvient justement, Arnaud, de ces chips fantastiques de Victor Dubuisson au WGC Match Play. Évidemment, ces chips, il avait dû aussi, lui, les travailler et s'amuser à en faire des comme ça, quoi.
Oui, de toute façon, on sait que les pétanques, c'est la base de l'entraînement.
Ouais,
voilà, ils mettent les balles dans tous les sens et ils s'entraînent. Robin, je voulais revenir sur votre performance, justement, c'est le cas de le dire, à Grande Canaria, là, parce qu'il y a eu 3 tours sous le par, notamment un premier où vous étiez en tête.
Ouais, 63-65, les deux premiers jours.
Voilà, et puis un troisième tour au-dessus du par, et à nouveau sous le par le quatrième. Quand on est joueur pro comme ça, est-ce qu'on prend le tournoi à la fin et on regarde ce qui s'est passé le troisième tour? Est-ce que c'est ça la clé? Vous avez fini 29e, on va dire, à cause de ce troisième tour. Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Est-ce que vous étudiez particulièrement ce tour-là et vous regardez ce qui a cloché?
Ouais, forcément, hein. On analyse. Enfin, il y a toujours beaucoup plus à analyser sur une mauvaise partie que sur une très bonne. Mais là, forcément, ouais. Après, je réanalyse globalement dans un premier temps. Je suis forcé de constater que c'était mon meilleur tournoi cette année. J'ai retrouvé beaucoup de bonnes sensations. Donc ça, c'est facile à analyser.
Premier cut passé, c'est ça de l'année.
Ouais, exactement. Donc, je vais pouvoir capitaliser sur les sensations que j'ai eues cette semaine. Donc, ça, c'est super. Et après, ouais, le troisième tour, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte. J'étais pas loin de la tête, donc j'étais peut-être un peu plus nerveux. C'était la journée pour moi qui était le plus difficile, dans le sens où il y avait beaucoup de vent et je me suis pas mis tout de suite à l'abri sur les trous faciles. Donc voilà, ça m'a pas aidé. Et puis j'ai fait une grosse bêtise au 15, qui m'a vraiment coupé, parce que après 13 trous, j'étais encore pas mal, j'étais encore un sous le par, je crois. Au 14, je fais une petite bêtise, mais rien de grave. Et par contre, au 15, je fais une énorme bêtise qui me coûte un double. Là, je me trompe complètement sur le sens du vent et ma bague ne va pas du tout au green. Et je suis quand même milieu d'obstacle, je suis obligé de retaper le même coup du départ. Donc c'est vraiment une grosse erreur. Et voilà, donc ouais, c'est une journée qui m'a vachement handicapé dans le tournoi, parce que sur un parcours où ça scorait très bas, quand on fait plus 2, on perd énormément de place. Donc, mais non, comme vous dites, j'ai fait trois scores sous le par, trois bons scores. Donc sur cette semaine, il y a beaucoup plus évidemment de positifs que de négatifs, même s'il y a encore une mauvaise journée sur les quatre. Du coup, c'est une mauvaise journée sur les quatre, c'est trop malheureusement pour pouvoir jouer la victoire sur le tour européen.
Alors justement, Robin, nous qui sommes de modestes amateurs, on joue forcément des compètes en Stableford sur une journée. En quoi c'est forcément plus compliqué et difficile d'enchaîner les tours et d'être performant justement sur quatre tours? Nous, on se rend compte déjà sur une partie que c'est compliqué, mais alors sur quatre, ça doit être l'enfer, quoi.
Bah, c'est pas forcément l'enfer, mais c'est sûr que c'est plus compliqué, parce que déjà sur quatre tours, c'est exigeant, dans le sens où faut, si on veut être performant pendant quatre tours pour pouvoir gagner, faut rien laisser au hasard, entre guillemets. Faut être en forme physiquement, faut pas avoir de petits coups de mou, faut être concentré à chaque fois avec la même intensité pendant quatre tours. Donc non, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
C'est quelque chose qui s'apprend, justement. On sait que sur les circuits satellites, c'est beaucoup de tournois en trois tours. Passer de trois tours à quatre tours, ça s'apprend, cette gestion?
Oui, alors je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tout cas, c'est une sorte d'expérience qui s'acquiert en jouant des tournois à quatre tours, hein, c'est sûr. Moi, je l'ai appris il y a quelques tournois amateurs qu'on joue sur quatre tours. Le Challenge Tour, j'ai eu la chance de faire deux années sur Challenge Tour, c'est que des tournois sur quatre tours aussi, donc je peux pas dire que j'ai pas l'habitude. Après, la toute petite différence qu'il y a sur Challenge Tour, c'est que bon, les enjeux sont, même si c'est quand même des beaux enjeux, mais les enjeux sont moindres sur Challenge Tour. Sur le Tour européen, on a un peu l'impression que tous les jours on joue entre guillemets sa place pour l'année prochaine, donc il y a cet enjeu-là aussi qui rentre en compte. Mais non, c'est sûr que après il y a la difficulté des parcours aussi. La différence avec les tours inférieurs, c'est que quand on va avoir une moins bonne journée ou une mauvaise journée sur un parcours qui est pas très exigeant, bah on peut toujours s'en sortir en faisant un score honorable, en faisant deux ou trois sous par sur le tour européen. Quand on commence à tirer des mauvais coups, ça devient compliqué
ça pardonne moins.
De sauver le score. Donc il y a ça aussi qui est compliqué sur le tour.
Robin.
Maintenant, voilà, c'est ouais.
Ouais. Pour revenir, je suis désolé de vous couper, mais pour revenir sur ce raté là au trou numéro 15, vous en voulez à votre caddie? Ouais. Vous êtes dans quel état mental derrière? Comment on se remet d'un parce que là vous disiez vous étiez 13e, donc vous regardiez vers le haut. Là, on commence à regarder vers le bas. Comment on se remet qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Est-ce qu'on se retourne à son caddie, on lui dit toi je te vire ce soir? Et comment on se remet après ça? Comment on repense positif derrière ça?
Bah déjà c'est on peut pas en vouloir vraiment, même si on s'en veut à soi-même, on en veut à son caddie, parce que on a fait l'erreur tous les deux, mais on peut pas en vouloir qu'au caddie, parce que en tant que joueur professionnel, on est quand même nous aussi censé savoir juger la direction du vent. Même si à ce moment-là, c'est sûr que j'étais au 15, on est un peu moins lucide contre le numéro 1. Mais bon, c'est le caddie, je veux dire, c'est pas plus de sa faute que de la mienne. Mais après, l'avantage aussi d'être sous pression comme ça, c'est que je trouve que c'est plus ou moins facile de se remettre directement dedans, puisque ouais, il restait encore 3 trous. Donc finalement, moi, je l'ai assez vite. Assez vite oublié, parce qu'il reste encore 3 trous, donc c'est 3 trous encore où il faut être vigilant, et c'est encore 3 trous aussi où on a 3 bonnes opportunités de birdie, donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire cette erreur-là au 15, où il me restait 3 trous pour me rattraper. Donc non, après, chacun sa façon de réagir, il y en a qui pètent un câble, mais qui sont quand même capables de faire les 3 birdies derrière. Voilà, il y en a qui... Je sais pas. Moi, en tout cas, mon truc, c'est que c'est plutôt de me dire que la chance que j'avais à ce moment-là, c'est qu'il me restait trois trous pour me donner 3 occasions. Je crois que j'en ai fait qu'un sur les 3 de birdie, de souvenir. Donc voilà.
Donc plutôt la positive attitude.
Un birdie. C'est dur d'être positif.
Ouais.
Hein,
ouais, bah oui, mais...
un bogey d'abord hein, pour commencer, Robin. Je suis désolé, mais un bogey d'abord et après un birdie.
Alors non, vous enfoncez le clou toujours.
Ben non, mais soyons précis. Ouais. Soyons précis.
Rater rien.
Alors justement, quand on parle de performance, Robin, c'est quelque chose que forcément vous travaillez cet aspect de la performance avec Benoît Ducoulombier, votre coach. Lui, c'est quoi sa vision des choses quand on parle de performance à Benoît?
Bah, l'avantage c'est qu'on partage un peu. Benoît aime bien séparer un peu les entraînements, c'est-à-dire on va commencer peut-être la séance avec un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 2-3 exercices vraiment techniques, et puis plus on va avancer dans la séance, et moins il y aura de technique, et plus ça va être on retire la baguette, on vise une cible, voilà, je veux la faire sortir 3 mètres à gauche pour qu'elle fade sur la cible, et ouais, on va passer vraiment en mode parcours, et comme si on s'imaginait sur le parcours avec une situation à taper, un drapeau sur un green. Donc non, ce qui est cool avec Benoît, c'est qu'on se rejoint pas mal là-dessus, c'est que il aime bien aussi compartimenter les entraînements avec un petit peu de technique, même si encore une fois, voilà, c'est jamais beaucoup avec Benoît la technique, c'est ça qui est top. Et par contre, il y a tout le temps une grosse partie performance.
Arnaud,
ouais. Pour revenir sur ce tournoi, votre premier cut et votre première performance, vos bonnes sensations. Est-ce que vous avez eu ce fameux déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui explique ce bon résultat?
Ouais, complètement. Je bossais. Enfin, ça fait longtemps que je travaille sur une trajectoire plutôt en fade. Et là les sens, enfin voilà, il y a pas mal de, enfin mon swing évolue dans une direction, en fait voilà, j'aimerais faire évoluer mon swing de manière à ce que mon chemin de club soit de plus en plus neutre, en fait. J'aimerais tirer un fade avec pas un chemin trop à gauche au retour, et avec une phase de club le plus square possible. Donc ça c'est mon but sur le long terme, d'avoir un chemin neutre et une phase de club assez square, donc pour tirer pour pas avoir énormément d'effets. Et donc voilà, j'ai eu là cette semaine, j'étais sur deux sensations qui étaient hyper simples pour moi à répéter dans tous mes swings. Donc je pense que c'est ça la clé, en fait, c'est de partir sur le parcours avec des pensées hyper simples, et pas des pensées dernièrement, je partais sur le parcours avec des trucs hyper compliqués à faire dans les poignets, dans les mains, garder des angles et tout dans les mains. Donc, c'est des choses sous pression qui peuvent être assez compliquées à réaliser sur le parcours, alors qu'on a l'impression que sur le practice tout va bien. Et voilà, cette semaine, je suis parti avec d'autres pensées sur le parcours qui étaient beaucoup plus simples à faire, même sous pression. Donc je pense qu'il y a eu une petite mine à creuser là-dedans.
Pour terminer, Robin, donc vous le dites, c'est un travail de longue haleine, vraiment. C'est des réglages très fins, mais j'imagine qu'en même temps, vu ce qui s'est passé ce week-end, vous devez avoir hâte de retourner en compète.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que après c'est toujours pareil. Hein, le golf, un jour on a l'impression d'avoir tout compris, et la semaine d'après, on comprend pas pourquoi, mais tout.
Ça c'est à tous les niveaux.
À l'inverse. Ouais, exactement. Ça c'est pour tout le monde pareil.
Le fameux j'ai trouvé
un truc. Ouais, c'est clair. Le fameux j'ai trouvé un truc, on le connaît par cœur. Mais non, bah oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. Moi, ça fait c'est ma quatrième année avec Benoît, et ça fait ouais, dès que j'ai commencé à bosser avec lui, on est tout de suite parti dans cette direction. Donc bah voilà, c'est un travail depuis 4 ans, mais tous les jours on apprend un peu plus, et tous les jours on trouve de nouveaux trucs à bosser. Donc c'est ça aussi qui est merveilleux, hein, avec notre sport, c'est qu'on a toujours des os à ronger, on a toujours des sensations différentes tous les jours. Donc on s'ennuie jamais, entre guillemets, mais ouais, c'est sûr que c'est définitivement un travail de longue haleine, surtout pour moi qui techniquement part d'assez loin.
De moins loin que nous, en tout cas. Ça marche. Merci
ouais,
beaucoup.
Mais on n'a pas le même métier. Ouais,
c'est vrai. Mais merci beaucoup, Robin, et bonne chance pour cette semaine.
Ouais. Merci, Robin.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Allez, petit aparté pour parler également de ce qui a fait le buzz ces derniers jours avec cette prime donnée aux joueurs du PGA Tour présents sur les réseaux sociaux. Je vous propose, Arnaud, vous voulez réagir tout de suite ?
Non, pas tout de suite, d'accord. Mais c'est scandaleux.
Alors, allez, plus d'explications avec Arthur Diliberto. Bonjour Arthur.
Bonjour JP. Alors, bonjour Arnaud.
Expliquez-nous. Très bon joueur de golf, hein, Arthur. Hein, il est scratch.
Très performant, oui. Alors Arthur, expliquez-nous tout ça, cette nouvelle prime donc, du coup, pour les joueurs du PGA Tour qui sont présents sur les réseaux sociaux.
Oui, alors ce projet nommé Player Impact Programme a été annoncé la semaine dernière et a fait beaucoup parler. Concrètement, il s'agit d'une récompense de 40 millions de dollars.
Quand même, Arnaud.
Ouais.
Qui seront distribués aux 10 joueurs les plus populaires, apportant le plus de visibilité et de plus-value au PGA Tour.
Alors Arthur, comment justement va être calculé ce nouveau classement ? Comment ça va se passer ?
Alors, on ne sait pas encore les modalités de calcul exactes, mais on connaît les 5 critères qui vont le composer. Il y aura la popularité du joueur d'après les recherches dans Google, sa cote Nielsen, un système américain qui évalue un joueur selon la couverture médiatique qu'il offre à ses sponsors, son indice Q, défini par l'attachement et l'intérêt porté au joueur en tant que marque, son indice MVP Index, correspondant à sa valeur liée à l'engagement sur les réseaux sociaux, et ses mentions Melvater, soit la fréquence, avec laquelle le joueur est cité dans un éventail déterminé de plateformes médias. Il y avait un sixième critère qui était à la base présent, celui du classement FedEx, mais il a été retiré, ne laissant au final que des critères purement marketing.
Pas de critères sportifs, faut pas exagérer quand même. Non, mais c'est absolument scandaleux. C'est un peu comme le projet de réforme de ligue, là j'ai oublié le nom, en football.
La Super League, merci.
On fait du sport pour faire des critères sportifs. Et en plus, ce flot d'argent que possède le PGA Tour, alors que partout ailleurs, bon, sans parler de tous les problèmes extra-sportifs, mais que les golfeuses, que les golfeurs des secondes divisions n'ont pas d'argent, enfin c'est aberrant, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est plus du sport, c'est n'importe quoi.
Alors Arnaud, vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas le seul. La nouvelle n'a pas été bien reçue par tout le monde. Hein.
Oui, en plus d'Arnaud, la nouvelle a fait grincer les dents de pas mal de joueurs, notamment les moins starisés. L'impression est la même pour beaucoup. Cet argent est perçu comme un don fait aux grandes têtes d'affiches du circuit qui gagnent déjà extrêmement bien leur vie, pendant que les joueurs de circuits secondaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont beaucoup plus de mal et souffrent énormément de la crise du Covid. Une simulation a d'ailleurs été faite sur la saison 2019, qui aurait vu Tiger prendre la première place du classement devant Rory et Koepka. Et donc, si cette récompense était mise en place à l'époque, il aurait remporté les 8 millions de dollars promis aux gagnants. Lui qui, cette année-là, avait déjà emporté 3,3 millions de dollars, rien qu'en cash prize et en jouant assez peu de tournois.
C'est sûr qu'on imagine mal Damien Perrier dans ce classement, même s'il tweet souvent d'ailleurs.
Voilà, encore une fois, le sport, c'est des résultats et rien d'autre. Et quand on a la chance d'avoir autant d'argent que ça, le PGA Tour, mais qu'il l'utilise à développer le golf, qu'il l'utilise, je ne sais pas... Encore une fois, sur les circuits inférieurs, dans les écoles de golf, partout. Mais ça sert à quoi d'aller injecter de l'argent comme ça ? Enfin, c'est ridicule, c'est même limite à vomir. En Super League, on a réussi en Europe, enfin en tout cas les Européens ont réussi à repousser ce projet scandaleux. Malheureusement, aux États-Unis, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, mais j'espère que sait-on jamais. Pourquoi pas ce soit retiré, quoi.
Le PGA Tour avec le pouvoir de l'argent, ils font un peu ce qu'ils veulent.
Hein. Ah oui, ça, ils font ce qu'ils veulent. Donc malheureusement, ça risque de se faire. Mais j'espère que voilà. Et pourquoi pas les joueurs. Un Rory McIlroy qui est quand même un super mec. Voilà, il pourrait prendre la parole là-dessus. On sait qu'il y avait eu aussi un projet de 40 millions de dollars de l'Arabie Saoudite qui voulait attirer les meilleurs joueurs du monde. Là, les meilleurs joueurs du monde avaient dit non. Ben, espérons que là-dessus, ils vont le faire.
Alors justement, Arnaud, vous a un peu spoilé Arthur sur cette...
Désolé.
Alors pourquoi une telle décision de la part du PGA Tour de faire cette prime ?
Alors oui, on va y revenir. Alors officiellement, le PGA Tour dit souhaiter pousser les joueurs à communiquer et donc de fait mettre en lumière le circuit. Mais en réalité, ce n'est certainement pas la seule raison. Les annonces... dont parler.
Bah, surtout qu'il n'y a pas besoin de ça pour mettre en circuit, oui. En lumière le PGA Tour. Quoi.
Non, c'est... Bon, bref, j'ai déjà dit.
Les annonces de plus en plus récurrentes de la première Golf League, donc ce projet venu d'Arabie Saoudite visant à créer un circuit avec les 48 meilleurs joueurs du monde, serait aussi donc l'une des raisons qui ont poussé à la mise en place de ces récompenses. Car même si ces dernières semaines, plusieurs joueurs sont revenus sur leur déclaration d'être intéressés ou en tout cas de ne pas fermer les portes au projet... L'appât du gain peut faire changer les choses rapidement et cette récompense va en encourager plus d'un à ne pas se laisser tenter par cette ligue. un joueur populaire, pardon, comme McIlroy, dont vous parliez à l'instant, par exemple, qui avait déclaré, lorsqu'il était interrogé sur le sujet, qu'il fallait récompenser les meilleurs joueurs comme ils devraient l'être, laissant sous-entendre qu'ils mériteraient de gagner plus. Eh bien, lui, qui a tout de même empoché 22 millions de dollars de cash prize en 2019, voit donc son souhait exaucé avec ce bonus, dont il devrait être l'un des grands gagnants.
Eh bien, merci beaucoup, Arthur. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Super League de foot qui a été proposée la semaine dernière.
Et c'est vrai que le montant est quand même très proche de cette... ça s'appelait aussi comment la Ligue en golf, la Super League, ou la Golf League. Donc, voilà, mais bon, c'est aberrant. Voilà, et encore une fois, encore plus dans ces temps troublés où la planète va pas bien. Enfin, voilà, c'est ridicule. À la limite, s'ils ont cet argent, mais mettez-le sur la table, mettez-le, augmentez les prize money. Mais qu'est-ce que vous allez le donner de façon, sur du buzz, sur du média, enfin, c'est ridicule.
Allez, affaire à suivre. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et je vous propose de prendre tout de suite des nouvelles de Julien Brun, car la saison du Challenge Tour reprenait ses droits la semaine dernière en Afrique du Sud. Julien a terminé 46e. On va écouter justement son analyse à Julien Brun.
Reprise tout à fait correcte. C'était quand même un tournoi difficile en altitude, avec de l'herbe. L'herbe, on ne connaît pas, en kikuyu, donc beaucoup, beaucoup de choses à adapter. En arrivant juste 3 jours avant, ça fait quand même beaucoup de facteurs dont on n'est pas habitué, et des facteurs à prendre en compte pour la performance au niveau des profondeurs, au niveau des attaques de green, aussi au niveau des départs. Donc, un petit peu difficile à ce niveau-là. Donc, content de ma reprise. J'ai quand même produit du bon golf dans l'ensemble, malgré 3e journée vraiment dégueulasse, 3e journée sans. Surtout sur les greens, avec quelques gros miss sur le long jeu. Donc, ça paye cash à ce niveau-là. Donc, voilà, fin de.
Voilà, une 3e journée dégueulasse, comme le dit Julien Brun également. C'est.
Il a nettement reculé au classement, un peu comme Robin. Il partait d'un peu plus loin et voilà. Bon, il s'est bien repris le dernier tour, notamment avec un très joli coup de golf.
Exactement, un trou en un. Il va nous raconter ce trou en un. Julien Brun, il va nous dire ce qu'il a gagné d'ailleurs sur ce trou en un.
Il y avait quand même, donc il y avait 177 mètres. Donc en altitude, ça voyage beaucoup, mais il y avait vent contre et j'avais fer 6 dans les mains. Puis au dernier moment, il y avait un peu moins de vent. Et j'ai dit, je vais mettre fer 7, parce que la veille, j'avais tapé un super coup de fer 5, et il y avait pas mal de vent. Le drapeau était un peu plus loin, et j'avais mis dans l'axe, un peu plus loin. Donc là, je me suis dit, mais attends, si ça va être trop long. Donc j'ai pris 7 au dernier moment, j'ai tapé un super coup par le milieu de green. Vraiment bien touché, nickel, en droit vers le drapeau, puis elle a fait 2-3 rebonds, elle est tombée. Et puis je l'ai vue, donc ça, c'est sympa. Petite célébration, puis on était contents, on va retourner après. Quelques photos aussi. Rien gagné. J'ai pas fait le trou en un au bon endroit. Mais bon, ça fait toujours plaisir.
Et voilà, un trou en un, pas pour rien, mais un trou en un.
Pas de voiture, mais vous gagnez déjà sur le Challenge Tour. Il y en a quand même pas souvent des voitures à gagner. Puis vous gagnez quand même 2 points sur le parcours, sur le reste du champ aussi, généralement. Donc, ça fait quand même toujours du bien. Ça fait un peu quelques euros en plus ou centaines d'euros en plus à la fin. Quand même.
Arnaud, votre dernier trou en un, vous,
je n'en ai jamais fait, évidemment, Jean-Philippe.
Pas officiellement, en tout cas.
Non, ni officieusement.
Allez, le tournoi, justement, a été remporté par Brandon Stone. Hein, vous le retrouvez pas moins de 19 Sud-Africains dans le top 30. Mais ça devrait changer dans les semaines à venir, selon Julien Brun. Il nous explique tout ça.
Les Sud-Af, ils sont vraiment, vraiment durs à jouer chez eux, quand même. En altitude, c'est très très compliqué. En plus, nous, c'est le début de saison. Donc, évidemment, le leaderboard à la fin de la semaine, il est quasiment que sud-africain. Quoi. On va s'équilibrer sur les semaines à venir. Là, on passe sur des altitudes qu'on connaît mieux. Il y aura du vent. Donc, on va être un peu moins perdu, entre guillemets. Un peu moins de facteurs à s'adapter. Par contre, ça reste quand même une herbe difficile et une herbe qu'on ne connaît pas. Donc au niveau du chipping et des attaques de green, c'est toujours des facteurs en plus à gérer. Eux, ils jouent vraiment, vraiment à domicile. Hein. Je pense que si on mettait le même tournoi en hiver sur nos golfs en France, on serait quand même bien plus armés qu'eux, ils peuvent l'être. Au niveau des conditions de jeu, des distances, des chips, Bon, en tout cas, c'est top d'être ici au chaud et de pouvoir se confronter au haut niveau. C'est vraiment, vraiment du haut niveau, quoi, le Sunshine Tour en Afrique du Sud. Donc, c'est top de pouvoir démarrer la saison comme ça.
Et voilà, cette semaine, ça sera le Captain Open avec en course 7 Français au départ. Et évidemment, on suivra ça, Arnaud.
Ben, bien sûr.
Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et je vous propose de revenir à notre sujet, à notre thème du jour, la performance avec Mathieu Santerre, le coach, entre autres, de Romain Langasque. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors Mathieu, question toute simple pour commencer. Notre thème du jour, évidemment, c'est la performance. Question toute simple, vous, quelle est votre vision de la performance ?
Alors, ma vision de la performance...
Grande question, c'est ça ?
Ouais, c'est une grande question et c'est une question qu'on peaufine au fil des ans. Et je pense que, en tout cas, moi, ma réponse face à la performance, c'est que bah, y a que la vérité qui reste. Et elle a pas de préférence, la performance. Il n'y a pas de justice ou quoi. La performance, elle est là et elle s'applique comme un temps en natation. Nous, le golf, on a un score à faire. Et il n'y a pas de mérite là-dedans. Je ne suis pas plus ou mieux entraîné qu'un autre. La seule chose qui compte, c'est combien de coups on a mis pour mettre la balle dans le trou à la fin des 72 coups, des 72 trous.
Donc, c'est la vérité du terrain, quoi.
Exactement. Et on est tous nus face à la performance. On ne peut pas se cacher. Elle fait ressortir ce qu'il y a de meilleur et puis ce qu'il y a de plus compliqué en nous. Et s'il y a des non-dits, que ce soit... avec le staff ou que ce soit avec soi-même, tout simplement, si on n'est pas en phase, si on se ment un peu, ça va forcément ressortir.
Arnaud ?
Ouais, donc Mathieu, le fameux « j'ai bien joué mais j'ai mal scoré », vous n'adhérez pas du tout ?
Non, il n'y a que le score qui compte.
Alors justement, vous entraînez des joueurs amateurs et des joueurs professionnels. Il y a vraiment une différence entre la préparation d'un joueur amateur et la préparation d'un joueur professionnel, il a justement cette performance ou non, ils sont sur un même pied d'égalité ?
Alors non, on va faire la même chose. Quand on parle d'amateurs, il y a différents stades chez les amateurs. Ça peut être des petits de 14 ans ou ça peut être des néo-pros de 20 ans. Effectivement, ils ne sont pas tout à fait au même stade dans leur apprentissage. Mais globalement, ça va être la même vérité, les mêmes choses.
Alors justement, on sait que chez les joueurs professionnels et les très bons amateurs, il y a ces fameux pics de performance. C'est compliqué de préparer un joueur à être, on va dire, programmé pour performer à un moment donné, quoi.
Alors non, c'est pas compliqué. En fait, tout le staff va s'ajuster pour que les planètes s'alignent à ce moment-là. Donc, c'est le travail combiné du préparateur physique, du préparateur mental et du préparateur technique pour que tout soit déjà bien en place pour le moment de l'épreuve.
Alors, quand on prend l'exemple de Romain Langasque, vous travaillez avec lui quand il a gagné en Écosse, c'était sur un de ses pics de performance ? C'était programmé, il était programmé pour justement que les planètes soient alignées à ce moment-là ou là, c'était un peu une surprise ?
Alors, je dirais qu'on n'avait pas planifié exactement ce moment-là, mais le travail avec sa prépa mentale remonte pas mal en amont déjà depuis l'année d'avant pour que justement ça arrive, pour le préparer mentalement à gagner. Donc, on savait que le niveau de jeu allait lui permettre, mais maintenant, il fallait que son niveau mental lui permette. Et là, ça faisait quelques temps qu'il avait assimilé certains concepts qui lui ont permis d'amener le truc au bout, au Pays de Galles.
Arnaud ?
Oui, je ne sais pas si c'est maintenant que vous aviez prévu de parler des championnats du monde ou pas.
Non, mais ce n'est pas grave, allez-y, je vous sens mûr pour en parler, Arnaud.
Ouais, Mathieu, on sait qu'il y avait un stage, on va en parler dans le prochain numéro du Journal du Golf, il y avait un stage au Golf National il n'y a pas longtemps pour préparer les championnats du monde qui se dérouleront au Golf National pour l'équipe masculine l'année prochaine. Comment on fait pour préparer un événement un an à l'avance ? Est-ce que les joueurs doivent y penser tous les jours ? Est-ce qu'il ne faut pas trop y penser ? Comment est-ce qu'on se prépare à ce niveau-là ?
Eh ben, c'est une bonne question. S'y préparer tous les jours et en même temps pas trop vouloir et pas trop y penser, c'est l'équilibre fragile qu'il faut réussir à créer. et à maintenir là pendant ces 18 mois ou 24 mois qu'on a eu pour préparer l'épreuve. Alors effectivement, nous, c'est dans notre tête tous les jours, et toute la programmation qu'on a fait sportive là sur les 18 mois maintenant qui nous en séparent est faite en ce sens, pour équiper les joueurs. Notre credo, c'est que ce soit des joueurs professionnels qui gagnent la plus belle épreuve amateur au monde. Et donc nous, là, ces 18 mois, c'est pour les préparer comme des professionnels à jouer cette épreuve sur un parcours exigeant et à prendre la plus belle des médailles.
Alors, on le rappelle, Arnaud, mes meilleurs amateurs français ont eu la chance de pouvoir repérer le golf national, quelques trous du golf national avec les cadets de, notamment.
Tout le parcours.
Tout le parcours avec les cadets de Romain Langasque et Alexander Lévy et d'autres dont je ne me souviens plus. Il va y avoir un après à cette rencontre, Mathieu. Il va y avoir d'autres rencontres de ce type. Il y avait aussi l'ancien cadet de Francesco Molinari, d'ailleurs.
Oui, exactement. Il y aura d'autres rencontres comme ça. D'une part parce que le groupe cible n'était pas au complet cette semaine-là, et d'autre part parce que le championnat du monde se déroule au golf national et à Saint-Nom-la-Bretèche. On a deux tours sur chacun des parcours, donc on va répéter l'opération également à Saint-Nom-la-Bretèche.
Qu'est-ce qui en est sorti de cette première rencontre? Quels ont été les retours des amateurs? On suppose qu'ils ont beaucoup appris.
Oui, leur premier retour, c'était la surprise face au degré de précision dont font preuve là tous les cadets. Précision dans la reco, précision dans les coups qu'ils décident de refaire sur les reconnaissances, précision dans la préparation du coup, dans l'après-coup aussi. Et le retour des cadets, c'est un retour très positif aussi. Ils étaient vraiment surpris du niveau de professionnalisme déjà de ces jeunes joueurs là qui ont entre 18 et 21 ans. Ils sont surpris de la maturité et de leur niveau de compétence.
C'est quelque chose que ce niveau de compétence et de professionnalisme, limite, on peut dire le mot, c'est quelque chose qui est nouveau chez des joueurs comme ça. Si on retourne 5 ans en arrière, ce n'était pas le cas.
On essaye, c'était déjà l'idée à l'époque. Alors maintenant, c'est exacerbé, notamment grâce à la politique là, de la fédération, à la DTN et à son président Pascal Grisot, qui nous permet d'avoir les moyens pour mettre en place cette professionnalisation là, auprès de nos meilleurs jeunes.
Arnaud, une question?
Oui, vous avez parlé de groupe cible. Combien y a-t-il de joueurs? On sait qu'il y aura 3 sélectionnés à la fin. Combien y a-t-il de joueurs dans le groupe cible? Et quand et comment va se faire le choix final, Mathieu?
Oui. Alors pour cette année, nous sommes partis avec 5 joueurs dans le groupe cible. On reverra notre copie à la fin de l'année en fonction des formes ou des méformes de chacun. Donc on ajustera pour le sprint final l'année prochaine, là, en 2022. Nous devons rendre la copie au mois d'août 2022. Le championnat du monde se déroule fin août, début septembre. Et donc on s'arrêtera là sur 3 joueurs entre début août et mi-août 2022.
Il faut rappeler que les derniers champions du monde, c'était Romain Vatel, Alexander Lévy et Johan Lopez Lazzaro.
Bien, j'en
suis. Oui, exactement.
2012, c'est ça? 2011.
Ah, ouais, en 2010.
2010, voilà.
Bien essayé, JP. Toute proportion gardée, c'est un peu comme l'équipe de France de football. On se souvient à Clairefontaine quand ils avaient, pour 98, quand ils avaient écarté 6 joueurs.
La fameuse liste, ouais.
Voilà, au dernier moment, ça doit être affreux pour les joueurs parce que donc ils vont être dans le coup jusqu'au bout et au dernier moment, ils vont voir leur rêve. Leur rêve s'envoler, Mathieu, ça aussi, ça doit. Enfin, vous devez quand même aussi y penser, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est sûr que ce sera difficile pour les joueurs qui ont fait partie de cette aventure, finalement, de pas aller au bout sur le championnat du monde en tant que tel. Mais finalement, ce championnat du monde, c'est un prétexte pour eux et pour nous, pour les professionnaliser, pour leur donner le maximum pour qu'ils soient prêts à atteindre l'élite mondiale. Professionnels ensuite et qui puissent gagner des tournois du Grand Chelem. Donc c'est à la fois un objectif, mais finalement c'est une excuse pour se donner les moyens de les propulser en haut de l'élite mondiale professionnelle.
Alors on parle justement dans ce podcast de performance, vous encadrez aussi donc ces jeunes joueurs. On voit en ce moment avec Bryson DeChambeau justement cette envie toujours d'aller plus loin, de taper plus fort. Ils ont ces envies-là aussi, ces jeunes joueurs, ou est-ce qu'il faut les recadrer à ce niveau-là ? Comment ça se passe, justement, cette course à la puissance ?
Alors, ça leur, ça les obnubile pas de manière négative, mais oui, ça fait partie de leur projet professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont, tous un préparateur physique avec lequel ils travaillent et ils ont des séances de prépa physique plusieurs fois par semaine, toutes les semaines.
Mais justement, cet exemple de Bryson DeChambeau qu'on voit taper à 100 000 à l'heure...
Comme une mule,
c'est négatif. Est-ce que pour vous, vous devez mettre le haut là et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ?
Alors non, là pour nous les jeunes, c'est pas négatif. Ils changent pas tout juste pour taper comme Bryson DeChambeau. Donc non, ils sont assez stables là dans leur projet là-dessus. Et qu'est-ce que je pense de ça ? Bah c'est le côté jusqu'au boutiste de Bryson. Mais il le fait en même temps de manière très construite. Il le fait pas n'importe comment parce que il est staffé avec des personnes ultra compétentes dans ce domaine, que ce soit son préparateur physique ou là la personne de ressources techniques qu'il a rajouté à Mike Shai, qui est Chris Como. Donc il l'a fait de manière très intelligente, même si on peut trouver de l'extérieur que c'est un petit peu bourrin peut-être. Mais en fait, il l'a fait de manière très saine par rapport au risque de blessure que ça peut engendrer.
Bah, les images du Masters, au practice, là, ça faisait un peu bourrin quand même. Ouais.
pour préciser, Benjamin Cadieu a fait un excellent papier dans l'équipe magazine qu'il reprend et qu'il développe dans le numéro de Journal du Golf ce mois-ci. Et j'ai eu la chance d'interviewer Mathieu, que vous pourrez lire son interview dans le prochain numéro de Journal du Golf qui va sortir dans quelques jours.
Alors Mathieu, peut-être la question qui tue, le plus gros défaut des amateurs lambda, c'est justement ce manque de temps passé à s'entraîner, passé au practice, passé au putting green.
Je dirais que c'est plutôt le contenu des entraînements pour moi qu'autre chose. La plupart des gens qu'on va voir, ils vont... pour progresser, c'est synonyme forcément de changement technique. Alors qu'en fait, pour arriver à la performance, c'est pas uniquement ça. S'il y a besoin à un moment donné, pour atteindre un niveau de maîtrise et d'habileté supérieure, de revoir la mécanique, d'accord, mais en fait, c'est pas du tout la finalité. L'approche, elle doit être beaucoup plus large, elle doit être, le terme à la mode, c'est holistique, il faut s'occuper de tout, du mental, de la stratégie, de la technique, du physique, il faut s'occuper de tout. Et les progrès ne se résument pas du tout à un changement de grip ou à un changement de swing ou quoi.
Alors justement, vous, quel est votre conseil pour que vous pouvez donner aux gens qui justement n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, mais veulent quand même faire des progrès ? C'est quoi ? C'est mieux s'entraîner, avoir un entraînement plus ciblé ? Ça passe par quoi ?
Oui, exactement, c'est mieux s'entraîner. C'est s'entraîner plutôt... plutôt que d'essayer de changer son swing, c'est bien observer ce qu'on produit. On peut vraiment améliorer ses scores, même si on a un slice de 35 mètres. L'important, c'est de bien manager son... Enfin, les mots un peu anglais, mais manager son shot pattern. En fait, c'est de bien gérer la production qu'on va faire. Parce que même avec un slice de 35 mètres, on peut toucher les cibles si on s'organise correctement. Si on s'organise suffisamment à gauche et si l'effet il est suffisamment régulier, on peut éviter de prendre des points de pénalité, on peut se rapprocher plus près des drapeaux. Donc moi, je dirais plutôt que c'est la gestion stratégique du jeu qu'on produit déjà qui peut faire gagner énormément de points.
Arnaud ?
Non, rien à dire, mais j'ai l'impression que vous posez la question pour vous, Jean-Philippe.
Un petit peu, j'avoue. Eh ben, merci beaucoup,
merci Mathieu. Et puis...
Eh ben avec plaisir.
Bonne chance pour les championnats du monde. Hein. On vous aura souvent dans Journal du Golf et à ce podcast.
Ouais, ça va être super.
À bientôt.
Une belle aventure. À bientôt.
Arnaud, ça va être la fin de cette émission. Merci.
Merci Jean-Philippe.
Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Et merci Antoine Bourlon à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.